Les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste toujours en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau volet des émissions des quartiers. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 3 octobre et l'événement de la journée, il ne vous aura pas échappé. C'est la journée de la petite enfance qui se déroule à l'association Jeanne d'Arc à Navarre et ce jusqu'à 18h. Au programme de cette journée, eh bien, vous pourrez rencontrer nombre de professionnels de la petite enfance sur diverses thématiques. L'hygiène bucco-dentaire qui est juste à côté de nous d'ailleurs avec leur mâchoire géante. Vous pourrez rencontrer des personnes spécialisées dans le jeu, dans la lecture, dans l'accompagnement en tout cas de tous les moments de nos petits bouts de choux. Au programme de cette journée très précisément, il y a actuellement un café parent sur la thématique de l'enfant face aux écrans. Il y a le spectacle également, papy, mamie et leurs petits qui se déroule. Mais rassurez-vous, si vous avez raté cette représentation, il y en a une autre à partir de 17h15, fait par la compagnie Shabada. Il y aura également un deuxième café des parents sur la thématique l'agressivité du jeune enfant et ça ce sera à partir de 17h. Entre deux, bien entendu, rejoignez-nous, il y a un nombre de stands à venir visiter. En ce qui nous concerne, nous serons à l'antenne jusqu'à 17h avec des intervenants de cet événement. Pour m'accompagner et mettre en ondes ces échanges, nous avons fait appel au meilleur de nos hommes en la personne de Damien. Voilà, puis là c'était le petit jingle.
Je peux dire bonjour aussi.
Ah, vous pouvez dire bonjour si vous voulez.
Vous êtes bien content que je sois là?
Que je sois. Oh là là, putain, tu sais bien parler français.
Ça te va, toi, de vanner? Moi, je me comprends et c'est tout qu'est-ce qui m'intéresse.
Je vous ai compris.
Principe Actif, 102.4 FM.
Vous l'aurez compris, nous sommes en direct jusqu'à 17h de l'association Jeanne d'Arc où se déroule la journée de la petite enfance. À nos micros, nous aurons dans un petit instant Sylvie Coraz, infirmière de la PMI, pour parler ensemble de jeu et l'importance du jeu chez nos bambins. Nous parlerons également alimentation et nutrition avec Tiphaine Perard, diététicienne, ainsi que Marion de l'association Voie Lactée. Nous aurons ensuite la chance d'avoir Julie U à nos micros, directrice du multi-accueil du Civulibilule, mais pas seulement, elle est éducatrice aussi jeunes enfants et elle s'est posé beaucoup de questions et notamment les questions autour de l'enfance, l'enfant face aux écrans et l'agressivité du jeune enfant. Mais tout de suite, pour commencer, nous échangeons avec les initiateurs de cette journée, à savoir Johanna, animatrice au service du développement social local de la ville d'Évreux. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Et Johan Pitt, qui est coordinateur du projet social de territoire et du territoire de Navarre en particulier, directeur du centre social de Navarre. Bonjour à vous également.
Bonjour.
Ma toute première question, c'est quel est l'objet de cette journée de la petite enfance? Pourquoi créer une journée de la petite enfance aujourd'hui à la Jeanne d'Arc?
Alors, ça fait maintenant 2-3 ans en gros que le quartier travaille sur la question de la petite enfance. En général, on a commencé par travailler sur la question des problématiques d'accueil des enfants via les structures d'accueil sur le quartier. Et puis on s'est rendu compte rapidement que les questions qui se posaient autour de la petite enfance étaient bien plus larges. Alors on travaillait avec nous dès le départ l'ensemble des acteurs institutionnels concernés par la petite enfance, que ce soit la CAF, la PMI, la ville d'Évreux, enfin l'ensemble des partenaires, les financeurs.
La PMI, c'est la branche petite enfance, enfin gestion de la petite enfance du Conseil Général.
Voilà, du Conseil Général, protection maternelle et infantile, pour dire le nom complet, qui malgré son nom de qui peut parfois provoquer de l'appréhension chez les parents, est d'abord un service d'accompagnement des parents et du jeune enfant avant toute chose. Et puis nous avons travaillé aussi avec des parents du quartier sur cette question, donc on a pu mettre à jour un certain nombre de problèmes autour des modes de garde, que ce soit les places disponibles, parfois la distance nécessaire à parcourir pour avoir un mode de garde pour son enfant, et puis aussi de se rendre compte que les parents se posaient beaucoup de questions connexes à l'arrivée d'un enfant dans la famille, et nous avons aussi noté la volonté des partenaires impliqués sur le groupe de travail de poursuivre l'aventure collective en incluant d'autres partenaires et notamment les personnes alors ce que nous dans le jargon on appelle le civil libellule, mais
c'est le regroupement des communes la zone de Saint-Sébastien
juste derrière Navarre, et parce qu'on s'est rendu compte que finalement les familles de ces territoires traversaient ou fréquentaient Navarre et vice versa, et donc il s'agissait de voir comment aussi on pouvait travailler ensemble sur ces questions là. Ensuite, on a profité, j'allais dire, de la proposition de Johanna pour pouvoir donner forme et concrétiser ses envies collectives.
Justement, Johanna, aujourd'hui, on est plus proche d'une ambiance festive que d'une ambiance, j'ai envie de dire, institutionnelle.
Oui,
c'est le choix aussi de réunir les partenaires de la petite enfance autour d'un temps convivial, j'imagine.
Oui, totalement. C'était vraiment l'idée, c'est de pouvoir proposer aux familles qui se posent des questions, un certain nombre de questions sur la petite enfance en général, un temps où ils puissent rencontrer des professionnels, vraiment qu'ils puissent leur répondre sur ces questions, et tout en gardant ce côté festif, animation, vraiment ne pas être dans quelque chose de guindé en fait.
Vous parlez justement de familles qui se poseraient des questions, mais finalement ce genre de manifestation et cet événement en particulier, est-ce qu'il s'adresse à des familles qui rencontreraient exclusivement, enfin est-ce que c'est exclusivement pour des familles qui rencontreraient des difficultés avec leurs enfants, avec les modes de garde, avec je sais pas, l'école ou les lieux d'accueil, est-ce qu'on est forcément dans une thématique de problématique?
Absolument pas, on est vraiment là pour dans l'idée de pouvoir s'informer sur plein de choses, des petits tracas du quotidien, des tout simples, tout bêtes, notamment avec effectivement la santé bucco-dentaire, comment on apprend à son enfant à se brosser les dents régulièrement, les bonnes choses, les bons gestes du quotidien.
À travers cette manifestation, on a la sensation, j'ai la sensation, en poussant la porte et en m'installant ici, que les structures travaillent réellement ensemble. Est-ce que c'est une réalité, ou est-ce que c'est des points ponctuels tout au long, dans l'année qui sont posés, mais est-ce qu'il y a un travail partenarial et un travail parallèle qui se fait avec toutes ces structures? Comment ça fonctionne finalement?
Alors sur le volet petite enfance, il y a, on peut dire aujourd'hui, l'existence d'un réseau de partenaires réels autour du centre social, où le centre social a pu servir de plateforme, de coordination entre ces acteurs. Et le travail au quotidien est déjà engagé, des actions concrètes sont nées de ce travail. La crèche, par exemple, du quartier de Navarre, dans le travail précédent, a pu revoir ses modalités d'accueil. La Jeune d'Arc a porté un projet d'expérimentation de lieu d'accueil enfants-parents durant toute l'année dernière, et ça va donner lieu à l'ouverture d'un lieu d'accueil enfants-parents cette année, avec deux créneaux par semaine, le mardi matin et le jeudi matin, dans deux espaces différents du quartier. Ce travail se poursuit en partenariat avec le centre social, avec la protection maternelle et infantile, avec les acteurs que vous voyez là, qui viendront aussi intervenir sur ces lieux à la demande des parents. Donc le travail est réel. La demande des partenaires engagés dans la démarche, c'était aussi de trouver, je dirais, un temps fort, un temps aussi convivial, en dehors des réunions qui parfois, y compris pour nous professionnels, peuvent être des temps fastidieux, et on a aussi besoin de se retrouver dans ces moments-là, au contact des familles, mais aussi on peut voir autour de nous aussi que les professionnels en profitent pour échanger entre eux, pour construire des projets futurs. Des contacts se nouent aussi à ce moment-là, qui seront après au service des habitants du quartier. Donc oui, il y a un travail quotidien, mais il y avait aussi le besoin des partenaires d'avoir ce temps fort pour se retrouver ensemble.
Les familles font-elles partie de ce réseau de partenaires, et quelle place ont-elles si elles en font partie de ce réseau de partenaires ?
Alors, c'est une question qui n'est pas simple, parce que je dirais qu'elles ont fait partie réellement de l'élaboration du travail. On a pu travailler avec une dizaine de familles du quartier de Navarre. La difficulté ensuite, c'est, étant donné les contraintes souvent administratives dans la menée des projets, on perd les familles. Je vais prendre un exemple tout concret.
La complexité, c'est ça, des étapes du fonctionnement administratif.
Ouais, c'est pas du tout sur le temps des familles. Quand on commence à travailler sur la question d'un lieu d'accueil enfant-parent avec des familles, on travaille.
Oui, c'est pour demain, pour les familles.
Voilà. Alors nous, on a quand même pris soin dans la démarche de leur expliquer qu'on leur demandait de réfléchir avec nous à partir de ce qu'eux vivaient, mais pour apporter des réponses qui ne sont pas des réponses destinées à leurs enfants. On l'a posé comme ça dès le départ pour pas non plus faire naître de faux espoirs et de la frustration auprès des personnes qui acceptaient de s'impliquer à nos côtés dans cette démarche. Et qu'elles en soient remerciées, parce que cette dizaine de familles a joué le jeu et a permis de valider cette mise en expérimentation du lieu d'accueil enfants-parents, par exemple, des ateliers langage avec la protection maternelle infantile, des choses qui maintenant vont s'inscrire dans le paysage quotidien du quartier et dont d'autres familles vont bénéficier, ou ces mêmes familles si d'autres enfants venaient à rentrer chez eux.
Et du coup, effectivement, c'est la difficulté de la démarche, c'est de travailler pour, pas les mômes pour lesquels on a des difficultés, mais travailler soit pour les prochains, soit pour d'autres familles.
Mais si on l'explique bien au départ, c'est là où j'insiste, parce que des fois, les démarches participatives, on entend beaucoup de choses dessus. Si les règles du jeu...
C'est parfois, non, que le nom de participative, très clairement.
Non, ça n'a pas été le cas. Et si les règles du jeu sont posées comme telles au démarrage, on n'a pas rencontré de difficultés particulières à faire travailler les gens sur des projets qui ne les concernaient pas directement.
Johanna, cette journée de la petite enfance, voilà, est en train de se dérouler là sous nos yeux. Y a-t-il une action d'après-journée de la petite enfance de programmée, de prévue, une restitution, une récolte d'informations qui serviront à autre chose? Comment ça se passe?
Alors déjà, on a organisé, on a programmé une réunion bilan avec les familles le 9 octobre à 18h au centre social de l'AMICAL de Navarre.
Sur la place de Navarre.
Voilà, c'est ça. Donc, pour que les familles puissent venir nous faire leur retour, puissent partager des choses dont elles auraient envie qu'on parle dans une future action. Parce qu'en fait, le but de cette journée, c'est de pouvoir la pérenniser. Que ce soit un rendez-vous annuel ou plus, à voir. Et à côté de cette journée, le but aussi serait de faire en sorte de créer d'autres petites actions au sein des crèches, avec les écoles, ou vraiment avec tous les acteurs pour le public.
Donc, très bien. Voilà. Donc des perspectives, ça pourrait ouvrir sur ouvrir sur d'autres perspectives.
C'est ça.
Eh bien, merci à vous, Johanna Béalet. Vous êtes animatrice au service développement social local de la ville d'Évreux. Et merci à vous également, Johan Pitt, coordinateur du projet social de territoire et à la direction du centre social. Très bien, merci à vous.
Merci à vous.
Child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter.
Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it undone. Someday, when you hit it much lighter. Of a beautiful sun. Someday when the world is much brighter.
Ooh, child,
things are gonna be easier. Ooh, child, things will be brighter. Ooh, child, things are gonna be easier. Ooh, child, things will be brighter.
The Stair Steps, sorti en 1970, mesdames et messieurs, dames, avec le morceau Oh Child.
C'est trop bien la radio!
Principe actif, 102.4 FM.
Mais vous êtes magique, monsieur Deuze, vous collez au thème magnifiquement bien, hein, je trouve. Un titre avec Child dedans. Je rappelais tout à l'heure aux personnes qui sont dans l'assistance, c'est que Child, ça veut dire enfant en américain.
Ouais, hein. Ça doit être un truc comme ça.
C'est, voilà.
En franglais.
Et puis derrière, un petit jingle avec une voix d'enfant. Moi, je dis.
Ça colle.
Non, mais bah, c'est
à pas notre pour, présence.
C'est voilà. Pas pour rien qu'on vous a choisi, monsieur Damien. Nous sommes toujours en direct de la journée de la petite enfance. Enfance, à la GIA de à la Jeanne d'Arc, pardon, de Navarre. Nous sommes en direct et en live. Voilà, directement de cette jointe petite enfance. Je rappelle que vous pouvez venir y participer, venir rencontrer des professionnels de la petite enfance, assister à un spectacle à partir de 17h15 ou le café des parents sur la thématique de l'agressivité du jeune enfant à partir de 17h. Voilà, alors moi je me retourne, je tourne vire, voilà, je disais on attendait notre invité, mais pas forcément. On me fait des signes avec le doigt, alors forcément qu'ils sont complètement incompréhensifs, un pouce, un index qui se culbute les uns les autres, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, mais j'imagine que Johanna nous trouvera une solution. Bien entendu, on m'écrit des petits mots entre deux.
C'est beau.
Voilà.
C'est beau.
Alors, ok, très bien. Eh bien, je propose qu'on avance dans la liste des invités que nous devions avoir. Et d'ici une petite seconde, nous allons recevoir notre plateau autour de l'alimentation et de la nutrition. Question essentielle de la petite enfance qui ne s'est pas déjà retrouvée face à un petit bout de chou et son assiette de haricots verts. Vous savez, ça ressemble presque à un titre de film d'horreur, de film d'angoisse. Assiette de haricots verts, c'est un grand classique. Le chou de Bruxelles étant également une des hantises du repas du midi, par exemple.
En même temps, il est mieux de l'anticiper, l'aspect nutritif de nos pitchounes, aussi bien pour leur équilibre que bien sûr leur faculté à manger un petit peu de tout, hein, et varier un peu les plaisirs, parce que c'est sûr qu'en termes de sucré, il est moins difficile de mettre dans la bouche des choses qui ont des formes incongrues. Maintenant, il est vrai que voilà, l'aspect nutritif pour les pitchounes, il est ô combien essentiel. Bien sûr, mais j'y sais.
J'ai même mangé une fois une araignée en gélatine sucrée, hein, juste pour vous donner l'info. Très bien.
On est en train de nous dire que c'est le plateau alimentation qui est en train d'arriver jusqu'à nous et c'est plutôt...
Le plateau, c'est joliment dit. On va se restaurer.
Nous faisons des efforts. Voilà, alors nous allons recevoir les deux intervenantes, Johanna, c'est ça ? Oui, vous me dites oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le temps que nos invités s'installent, je vais les présenter pour les auditeurs. Nous allons recevoir Tiphaine Perrard, qui est diététicienne au pôle de réussite éducative, et également Marion de l'association Voie Lactée. Voilà, tout le monde est en train de s'installer au plateau.
Oui.
Je vous en prie. Bonjour. Bonjour à vous. Voilà, je vous en prie, chaussez votre casque, ça nous permet de nous enfermer dans notre échange. Oui, il n'est pas facile celui-là, hein. On a fait exprès, on vous a mis le cassé. Voilà. Bonjour à vous, mesdames. Alors, nous allons parler alimentation, nutrition ensemble. Le choix de vous avoir toutes les deux en plateau, mesdames, en même temps, à savoir Marion, vous œuvrez pour l'association Voie Lactée qui promeut l'alimentation du lait maternel pour les nourrissons. Et vous qui vous posez des questions plus larges, Tiphaine, notamment sur l'alimentation et des petits bouts également.
Tout à fait.
Ma toute première question autour de l'alimentation et du lait maternel en un premier temps, c'est pourquoi et qu'est-ce qui fait que l'allaitement et le lait maternel en particulier est particulièrement bon. On a l'habitude de dire oui, c'est plutôt bien, mais finalement, qu'est-ce qui fait que c'est mieux ou que ce serait d'ailleurs mieux, on verra après si c'est mieux ou pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que c'est bien et important?
Alors, tout simplement, j'ai envie de dire que l'allaitement maternel, c'est l'aliment prévu à la base pour l'enfant, par la nature, depuis que l'être humain existe sur Terre. Et c'est encore à l'heure actuelle l'aliment le plus adapté pour le nouveau-né et pour son système physiologique, biologique.
Est-ce que c'est en lien avec l'alimentation de la mère, du coup ? Est-ce que vous dites que c'est un lait le plus adapté, qui est étudié pour depuis la nuit des temps, hein ? Est-ce que du coup, ça dépend aussi de l'alimentation de la maman ?
L'alimentation de la maman, elle va pas vraiment influencer la production de son lait, parce qu'en fait, la nature est tellement bien faite que c'est le bébé qui va profiter de tout ce que la maman va lui apporter. On m'a raconté une anecdote cette semaine dans un pays où une maman avait dans un pays où il y avait un conflit. Donc cette maman avait été privée de nourriture pendant plusieurs jours. Et en fait, quand ces personnes ont été recueillies par des gens pour les aider, le seul être de la famille qui se portait bien, c'était le bébé qui était allaité.
C'est une espèce de naturel qui fait que tout va d'abord au nourrisson et puis ce qui reste pour la maman.
C'est ça.
C'est ça l'idée.
Tout à fait.
C'est ça l'idée. Alors sur cette question d'allaitement et de lait maternel, il y a souvent la question aussi de l'information pendant la science, la technologie avançant. On s'était dit qu'il y avait des laits qui étaient peut-être mieux faits, des trucs plus adaptés. Et puis finalement, c'est des choses qui reviennent, mais sur lesquelles il n'y a pas forcément... J'ai envie de dire, en tout cas dans l'information, on peut se noyer parfois.
Oui,
il suffit de taper sur internet allaitement, on trouve tout, n'importe quoi.
Tout à fait.
Et son contraire pour le coup. De quelle structure, de quel organisme, de quelle personne, de futures mamans qui se poseraient la question, peuvent se rapprocher?
Elles peuvent, on les encourage à tout niveau, bien sûr, mais en partie pour l'allaitement maternel, à suivre des cours de préparation à la naissance avec des sages-femmes notamment, qui sont des professionnels de santé qui vont leur permettre de leur donner une information sur l'allaitement maternel, au moins pour y réfléchir, pour avoir des premières notions. Après, il y a des consultantes en lactation, un métier pas très connu encore en France, mais qui commence à émerger.
Il y en a sur Évreux, par exemple.
Alors,
très concrètement.
Tout à fait. À Évreux, il y a une consultante en lactation, je vais donner son nom, qui s'appelle Céline Laroche. Elle vient une fois par semaine à Évreux. Elle a un cabinet qui est près de la cathédrale, donc C'est une femme qui fait de la consultation à l'allaitement maternel, donc pendant la grossesse, mais aussi après l'accouchement, bien sûr, et ce jusqu'au sevrage désiré par la maman.
C'est intéressant ce que vous donnez comme notion là, c'est par le sevrage désiré par la maman. C'est-à-dire que évidemment c'est une décision, c'est aussi de la façon dont
tout
ça se passe.
Fait.
Je me pose la question, moi, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, voilà, l'allaitement d'un enfant, c'est une alimentation exclusive? Est-ce qu'elle doit être mixée? Est-ce qu'elle n'est pas mixée? Comment ça se passe? Est-ce que ça doit suffire à soi-même? Est-ce que ça suffit pour tous les enfants? Ou est-ce que ça suffit de toutes les mamans? Enfin voilà, cette question, doit-on la mixer avec autre chose?
Alors, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont un allaitement exclusif maternel jusqu'aux 6 mois révolus de l'enfant.
Pour tout dire aux auditeurs, Tiffaine Perard, diététicienne, affirme, voilà, acquiesce avec la tête.
Voilà, et après, bien sûr, l'autre recommandation de l'OMS, c'est que l'allaitement maternel peut être poursuivi. Suivi et est encouragé jusqu'à au moins les 2 ans de l'enfant, tout en étant bien sûr associé à une diversification alimentaire. Voilà, tout à fait.
La diversification alimentaire qui arrive dès l'âge de 6 mois et voilà. Qui va en progression avec les mois.
Ce qui est assez cohérent entre c'est la recommandation initiale du lait maternel. C'est quelque chose sur lequel vous acquiescez globalement en tant que diététicienne,
oui,
de dire que
sûr.
Voilà, le lait maternel peut suffire sur au moins les 6 premiers mois.
Tout à fait. Après, même le lait qu'on peut acheter quelconque peut suffire aussi jusqu'à l'âge de 6 mois. Après 6 mois, ça devient juste, il faut quand même des apports différents, des apports de protéines, des apports de légumes, de fibres, de vitamines. Et ça, on ne les a pas spécialement toujours avec le lait.
J'ai une dernière question sur l'allaitement. Du coup, peut-on mixer l'allaitement et un lait complémentaire pour diverses raisons, qui pourraient être des raisons de santé ou des raisons de production? Non, ça se dit peut-être
tout
pas.
À fait,
de... Si, ça se dit de production. Excusez-moi, je suis assez novice en la matière.
Oui, en fait, il vaut mieux un allaitement mix, c'est-à-dire un allaitement maternel et un allaitement artificiel, avec du lait artificiel, plutôt que pas d'allaitement maternel du tout. Donc, c'est tout à fait possible d'associer des tétés au sein de la maman et des biberons de lait artificiel.
Est-ce qu'on pourrait conclure en se disant que la solution dépend de la relation entre la maman, l'enfant, dépend des deux, en fait, et de l'enfant et de la maman, et
deux.
Que chacun a sa solution et qu'il n'y a pas forcément une solution universelle.
Il n'y a pas forcément de solution universelle. Par contre, j'ai envie d'insister sur le fait que les premières semaines, c'est la production, puisqu'on a parlé de production, il faut que la production de lait maternel se mette en place, et il est préconisé quand même un allaitement exclusif au moins jusqu'à un mois à 6 semaines. Après, c'est pour que ça se passe au mieux. Après, bien sûr, tout est à adapter et est adaptable. La nature est bien faite.
Très bien. Au bout d'un moment, quand on passe les 6 mois, ce que vous aviez l'air d'acquiescer également, Tiffaine Perard, on arrive à la diversification des aliments.
Tout à fait.
Est-ce que la diversification des aliments, c'est refaire le repas équilibré de l'adulte en moindre quantité pour l'enfant à partir de 6 ans, et c'est bon pour toute la vie?
Alors, ça commence au fur et à mesure. À 6 mois, on commence à avoir des légumes cuits et des fruits cuits. Et après, ça va en progression. On commence par des légumes qui sont plutôt sucrés, comme la carotte. Et puis après, on y va en progression. On rajoute un petit peu plus de fibres. On rajoute un peu de légumes crus. Et puis après, on intègre un petit peu de viande. Et les féculents sont intégrés à la fin.
Est-ce qu'on pourrait se dire que l'intégration d'une alimentation variée au fur et à mesure est plutôt bien réfléchie, pourrait-on dire, permet que l'enfant mange de tout plus tard? Parce que ça, c'est une des questions qui va arriver juste après celle-là, hein, vous allez voir. parce que c'est une des questions de parents, hein, très clairement. Est-ce que le fait d'introduire très régulièrement de nouveaux aliments, de diversifier les goûts, de mettre des goûts un peu plus forts, des goûts un peu plus doux, permet... sur le long terme, est-ce que les enfants mangent un peu plus de choses?
Ça aide. Le fait qu'ils aillent goûter un peu à tout, qu'on leur fait goûter aussi des mêmes choses, mais de différentes façons, que ça soit en purée ou peut-être seulement en morceaux, ça change le goût, et pour les enfants, ça change la consistance et ça change tout.
Parfois, nous sommes démunis face aux enfants qui refusent les aliments.
Oui.
Le grand classique étant l'haricot vert ou le chou de Bruxelles, par exemple. Souvent, voilà, les enfants refusent des aliments. Est-ce que c'est grave ? Faut-il trouver une parade ? Ou comment ça se passe ?
Alors, c'est pas si grave que ça si ils ont d'autres légumes à côté. Après, on peut toujours trouver des parades en mettant un peu plus de couleurs, en mettant... Voilà, de...
L'haricot vert, quoi qu'on fasse, il est toujours vert. Hein.
Oui, mais le mettant en faisant un petit dessin dans l'assiette avec autre chose, ça donne toujours plus envie. Voilà, l'haricot vert peut faire les cheveux sur un petit bonhomme facilement, quoi.
Complètement. Hein.
Et donc, des cheveux verts, c'est marrant à manger. Voilà.
Très bien, oui, comment amuser l'enfant aussi
tout à fait.
Avec.
Ça aide beaucoup, hein, l'amusement au repas.
L'alimentation. Il y a souvent également les problèmes de quantité. Souvent, c'est en tant que parent, on aimerait que nos enfants mangent bien parce que c'est bon pour leur développement, parce que. Puis on nous le dit partout, hein, c'est important. Et puis en plus, on a acheté les aliments, on aimerait bien que ça ne termine pas à la poubelle. Il y a souvent des questions autour des quantités. Est-ce qu'il y a des quantités standards que chaque enfant doit manger en fonction de leur âge ? Est-ce que c'est en fonction de l'enfant ? Et puis, bah, comment rendre cohérent ce qu'il faudrait et ce qui va se passer ?
Alors, c'est en fonction de l'âge, le plus souvent. Après, c'est en fonction aussi de leur activité dans la journée. Voilà, c'est des enfants qui restent à rien faire durant la journée. Forcément, ils auront moins besoin de quantité que si c'est des enfants qui sont plutôt à la crèche et qui bougent tout le temps. Là, par contre, ils ont un peu plus besoin de choses. Après, c'est vrai que les quantités sont vraiment précises par âge. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus, parce qu'après, du coup, on engendre une obésité ou un surpoids dès l'enfance et qui peut poser problème après à l'âge adulte.
On peut faire de l'obésité du surpoids même avec ce qu'on appellerait des aliments sains comme les fruits et les légumes, comme, je ne sais pas, les poissons, les viandes, les choses. On peut quand même créer ce genre de situation d'obésité, même avec des produits, ce qu'on appellerait des produits globalement, enfin, je ne sais pas comment, il y a sûrement des noms en diététique, mais en tout cas.
Des produits sains,
voilà,
des produits
naturels. On ne parle pas de gâteaux. Voilà. Ou de chocolat.
Alors oui, on peut avoir de l'obésité avec les produits naturels s'ils sont cuisinés avec énormément de matières grasses ou rajoutés avec du sucre. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses qu'il faut faire attention.
Un enfant qui mangerait trois assiettes d'haricots sans beurre, machin, non, il n'y a pas de risque
pas du tout.
Non, il peut y aller, on peut le...
Bien sûr.
Il peut se faire plaisir. Si on,
oui.
si on en tient un qui mange les haricots des autres,
voilà,
il se prive
c'est
pas.
Sur
du coup les aliments, en quoi c'est important de varier les aliments ? Parce que souvent ça va être une difficulté, j'imagine les parents à la maison, c'est tellement compliqué plutôt de préparer déjà d'une un repas un peu élaboré, et puis derrière le faire entendre à l'enfant qu'il y a des saveurs compliquées, du coup on pourrait être tenté de se dire bon bah pas de jambon c'est très bien,
voilà,
allons-y là-dessus,
bah,
pas forcément de facilité, c'est comme j'imagine qu'on a déjà vu tous revenir de cuisine de succulents plats sur lequel personne n'avait rien touché. Bon, ben voilà, c'est sachant que quand on part avec des pâtes et du jambon, a priori, les plats reviennent plus vides. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que c'est important aussi de diversifier et comment intéresser l'enfant à la diversification ?
Alors, c'est important puisque du coup, il faut des vitamines de toutes sortes. Il faut des fibres aussi qui permettent de faire travailler les intestins. Pour que les enfants puissent le manger plus facilement, il faut que les enfants travaillent avec la maman ou le papa dans la cuisine ou qu'ils aillent au marché acheter les légumes ou rien qu'aller dans un potager. Ça donne toujours envie à l'enfant de manger des légumes ou des fruits, sachant que c'est lui qui l'a fait pousser ou qu'il a été le ramasser ou qu'il l'a préparé. Ça donne toujours envie.
Et sur le côté saveur mixée, est-ce que tous les enfants, par exemple, sont prêts à manger quelque chose d'aigre douce ou de sucré salé ? C'est des plats peut-être un peu plus particuliers.
Alors ça, c'est vraiment question de goût.
Alors ça s'éduque quand même le goût, j'imagine.
Oui, ça s'éduque. Alors après, voilà, si les parents ont l'habitude de faire ce genre de repas, ça passe très facilement. Si c'est vraiment un instant T dans une vie, c'est vrai que ça a du mal à passer. Et c'est compréhensible.
Sur le goût des enfants, vous savez, il y a toujours le goût des enfants. On dit toujours, bah, les enfants préfèrent ci, les enfants... Par exemple, pourquoi est-ce que les frites, ça fonctionne ? Ben voilà, les frites, rarement le plat, il revient avec une demi-frite dedans. Hein. Comment ça se fait qu'il y a certains plats... là, je parle des frites parce que c'est vraiment l'exemple par excellence. Hein, mais comment se fait-il que voilà, le plat de frites, le plat de haricots verts, je reprends encore mes haricots verts, hein, c'est contre ma... épinard, hein, c'est pas mieux,
épinard
à la crème. Hein, c'est, voilà, c'est, comment ça se fait ? Est-ce que c'est nos prédispositions naturelles qui font ça ou...
Les pommes de terre sont sucrées, donc du coup forcément le sucre, les enfants aiment tout ça. Le fait que ça baigne un petit peu dans la gras aussi, ça donne envie, et on peut manger ça à la main.
Oui, les haricots verts, même quand je dis qu'on peut les manger à la main, ça, ça part pas plus vite.
Non,
hein.
Ça part, la couleur aussi. La couleur, j'ai beaucoup, le vert, ça donne pas envie de manger. Hein.
Pour des parents qui se retrouveraient à des difficultés voilà, sur les repas, mm-hmm. tout simplement, quelle solution y a-t-il ? Y a-t-il des gens qui accompagnent ou y a-t-il tout de suite des astuces très très simples de mise en place ?
Il y a beaucoup d'astuces sur Internet, il y a pas mal de choses, de petites recettes amusantes pour les enfants.
C'est sur l'aspect ludique de la présentation.
Voilà, tout à fait. Après, si vraiment il y a un problème au niveau de l'alimentation, il faudrait en parler à son pédiatre ou à son médecin généraliste qui peut les envoyer vers un médecin nutritionniste ou une diététicienne. Au bout du compte, si vraiment il y a un souci.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Je voudrais juste faire un petit remarque.
Oui, je vous en prie. Bah oui, allez-y, Marion, je vous en prie.
Je voulais juste signaler que l'allaitement maternel, en fait, il favorise la diversification alimentaire. Parce qu'en fait, suivant ce que la maman mange, là, pour le coup, le lait maternel va avoir différentes saveurs. Et donc, elle expose déjà l'enfant à différentes saveurs. Donc, si la maman mange de façon variée aussi, son bébé mangera déjà de façon variée.
Tout à fait.
J'avais entendu dire d'ailleurs que les mamans qui allaitaient, il y avait une petite astuce, c'était de manger du cumin notamment, qui était une épice qui passait bien.
Les bébés adorent ça. Voilà. Il y a d'ailleurs des tisanes d'allaitement, entre guillemets, qui vont stimuler l'allaitement, mais juste parce qu'en fait, le bébé va adorer le goût que ça procure au lait et du coup, va l'inciter à téter davantage.
Comme quoi, finalement, on arrive même à faire des goûts sur l'allaitement.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Marion, de l'association Voie Lactée, et Tiffaine, diététicienne du PRE. Du programme de réussite éducative d'Evreux. Merci à vous, mesdames, d'être passées par nos micros.
To find better beats. Hard, hard, hard to find. To
pied de nez au sujet que nous venons d'évoquer avec le nom de la formation qui s'appelle Teacup Monster, ouais, tasse de thé, hein, comme quoi on aurait pu parler, il y avait un point avec la nutrition, permettez-moi, très cher JC de coller.
Alors Monster ça veut dire thé ?
Non. Teacup, oui. Avec le morceau Earthbeat, voilà, on les a croisés à Disorder, c'était très sympa.
Buenas noches.
Tu parles espagnol ?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes ? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif, le mix des cultures.
Et nous sommes toujours en direct de Navarre où se tient la journée de la petite enfance à l'association Jeanne d'Arc où bien entendu vous pouvez nous rejoindre. Marion, nous avons souhaité vous garder une petite seconde parce qu'il y a des temps de rencontre autour de l'allaitement qui sont prévus prochainement.
Tout à fait. Donc en dehors de nos rendez-vous mensuels de la Voie lactée qui ont lieu chaque premier samedi du mois, là nous
sommes
à la salle des fêtes d'Angerville-la-Campagne. Voilà, donc là nous approchons à grands pas de la semaine mondiale de l'allaitement maternel et donc à l'ouverture de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, nous organisons la grande tétée à Évreux, place John Kennedy à la maison de quartier de la Madeleine, dimanche 11 octobre. Donc de 10h à 16h, donc ça va être des thèmes sur des échanges sur l'allaitement maternel avec des mamans expérimentées, entre guillemets, mais aussi des professionnels de santé experts en allaitement maternel qui seront présents voilà, pour échanger, pour faire de cette journée une journée découverte, une journée d'échange, de rencontre. Et donc le but c'est que l'allaitement maternel ce soit quelque chose de normal dans notre société où les mamans se sentent encore mises à l'écart et sont bien souvent pas assez soutenues et pas assez conseillées.
Très bien. Rappelez-nous la date du coup de la grande tétée à la Madeleine.
Dimanche 11 octobre à la maison de quartier de la Madeleine. Et puis alors un peu plus local, là on aura la maison cantonale de Danville le vendredi 16 octobre à 18h, une rencontre sur l'allaitement maternel, toujours dans le cadre de la semaine mondiale allaitement maternel.
Très bien, bah merci à vous Marion de ces compléments d'information.
Merci.
Nous recevons maintenant Julie Hu avec nous, qui est directrice du multi-accueil du CIVU Libellule à Saint-Sébastien de Morsan. Mais ça, ce n'est pas tout, elle est également éducatrice de jeunes enfants. Vous êtes également auto-entrepreneuse, vous faites de l'accompagnement
à la parentalité.
À la parentalité, ouais, exactement. Et aujourd'hui, vous intervenez sur cette journée de la petite enfance à travers deux cafés par an avec deux thèmes particuliers. Le premier c'est l'enfant face aux écrans et le deuxième c'était l'agressivité du jeune enfant. Je vous propose que nous prenions un petit quart d'heure ensemble pour échanger sur ces deux thèmes particuliers qui sont finalement des thèmes quasi présents dans tous les foyers et sur lesquels parfois le parent peut être démuni ou en tout cas peut se sentir en difficulté. Je voudrais qu'on commence avec l'agressivité du jeune enfant, si vous le voulez bien. Ma question est-ce que le jeune enfant est forcément agressif ? Est-ce que ça fait partie de la nature du jeune enfant ?
Non, il n'est pas forcément agressif. L'enfant peut passer par des moments difficiles ou parce qu'il n'a pas le langage, il ne va avoir pas le moyen de s'exprimer. Donc on voit bien que c'est difficile pour lui à ce moment-là de pouvoir exprimer ses émotions. Je pense notamment à la période des 18 mois, 2 ans, où l'enfant justement n'a pas le langage. Il va devoir, il va faire comme il va pouvoir. Hein. Et certains enfants, voilà, ça va être de la façon la moins adéquate possible. Donc, vont pousser, vont tirer les cheveux, vont communiquer en essayant de mordre aussi. Mais ce n'est pas du tout quelque chose d'inquiétant pour l'enfant. C'est un passage qui peut être forcément délicat pour les familles. Parce que quand, à la crèche aussi, en tant que professionnel, quand on rend son enfant aux parents et qu'on dit, bah voilà, votre enfant a été mordu, ou alors qu'on dit aussi aux parents, bah, votre enfant a mordu, là aussi c'est difficile, hein, parce que derrière les parents s'inquiètent en disant, c'est parce que voilà, mon enfant, est-ce qu'il va devenir futur délinquant s'il mord ? Tout de suite on a l'impression que voilà, on va avoir des conséquences derrière, alors que notre rôle de professionnel c'est bien de dédramatiser la chose, c'est que l'enfant il a aussi à cet âge-là, n'est pas en mesure de mettre des mots sur ses émotions et c'est quelque chose de très pulsionnel pour lui et il va avoir tendance à réagir. Alors à 2 ans, tout ce qui est entre ses mains, il a l'impression que c'est à lui et tout ce qui est dans les mains des autres, il a l'impression aussi que c'est à lui. Donc il va falloir nous, en tant que parents et en tant que professionnels, être le médiateur et pouvoir être là en disant ben non, tu peux t'exprimer différemment qu'en tapant, qu'en poussant, mais bien en mettant des mots dessus. Donc c'est, voilà.
À travers ce que vous dites, j'entends que, alors vous m'arrêtez quand j'entends mal, hein, mais en tout cas que l'agressivité pourrait être un mode de communication,
oui,
le moyen de communication oui. presque le plus abordable finalement.
Oui, oui.
Je veux, je prends.
C'est ça.
T'es sur mon chemin, je mords. Enfin, des trucs très,
c'est ça,
très instinctifs.
C'est de l'instinctif, du basique, et du coup l'enfant, il n'a pas encore la mesure de pouvoir faire autrement. Donc après, il y a ce passage-là qui peut être normal. Et puis, il y a tous ces moments dans la vie de l'enfant, comme un déménagement, une arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, qui va pour lui être plus délicat à vivre. Donc du coup, il ne va pas non plus avoir les mots pour exprimer ce qui se passe. Et du coup, va, par l'agressivité, pouvoir exprimer qu'il y a quelque chose dans sa vie qu'il ne comprend pas. Donc là aussi, en tant que parent, en tant que professionnel, on doit décoder, essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi à un moment donné notre enfant, alors que tout allait bien, se met à pousser, à mordre, à taper. Est-ce qu'il y a dans sa vie quelque chose qui fait qu'il a du mal à exprimer les choses ? Donc notre rôle, encore une fois, c'est de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il vit et comment on peut l'aider à traverser ce moment difficile.
Bêtement, je me disais que moi, qu'un enfant agressif, c'est un enfant qui n'aurait pas encore intégré les codes sociaux tous les codes sociaux qui fait qu'entre
oui.
adultes, nous ne nous mordons pas en principe.
C'est ça.
Est-ce que c'est... Alors vous me parliez de mode de communication, est-ce que c'est aussi l'intégration des codes sociaux qui arrivent petit à petit j'ai envie de dire, remplacer l'agressivité par d'autres comportements
fait.
Plus adaptés.
À partir du moment où on voit bien, l'enfant, il a accès au langage, justement, il va passer dans autre chose, il va pouvoir exprimer. Et c'est comme les colères. Les colères, c'est la même chose. L'enfant qui n'a pas cette capacité de comprendre ce qui se passe en lui, il va exploser à un moment donné. Et parce qu'il va intégrer qu'est-ce qui se passe en lui, pourquoi à un moment donné il y a un trop-plein d'émotions qui arrivent et qu'il va pouvoir, à travers les mots et à travers avec l'adulte, pouvoir comprendre ce qui arrive. Petit à petit, cette colère, elle va diminuer. Et cette colère, elle va être au service d'autres choses.
C'est-à-dire qu'après, la traduction, alors après, ça arrive petit à petit. Hein,
ah oui, ça ne fait pas un jour.
Voilà, parfois, même adulte, on a encore travaillé
tout
sur ces choses-là. Hein,
ouais.
Mais du coup, voilà, ça va être le travail de compréhension du monde qui l'entoure, l'expression,
oui.
du coup, j'imagine l'organisation aussi de comment ça se passe dans sa tête, hein, de comment décrypter aussi ce qui est en train de se passer, qui fait que petit à petit, cette agressivité peut se transformer en des moyens plus doux de résolution de ces problématiques.
Tout à fait. Donc nous, on essaye aussi, à travers les échanges qu'on peut avoir avec les familles, de pouvoir expliquer qu'on peut aussi... parce que l'enfant, il faut reconnaître ce besoin qu'il a de taper, d'être en colère, et ça, c'est important de reconnaître ça. Et il peut déplacer cette colère, plutôt que d'aller taper le copain, et ben on met en place peut-être un outil qui s'appelle le coussin de la colère, où l'enfant, il peut aller taper ou mordre dans un objet qu'il peut avoir sur lui pour éviter justement de taper le copain qui est à côté. Donc on peut aussi donner des petites astuces qui peuvent aider aussi l'enfant et sa famille à passer ce cap difficile.
Alors justement, je voulais en arriver à nous en tant qu'adultes, alors soit en tant que parents, soit en tant qu'éducateurs, et là j'entends au sens très très large, hein, les intervenants dans l'éducation des jeunes enfants. Quelle réaction les adultes doivent-ils avoir face à une agressivité sur lesquelles on est démunis en plus, parce qu'on ne la comprend pas forcément,
oui.
nous en tant qu'adultes.
Oui. Bah déjà de reprendre l'enfant, hein, en disant que son geste là n'est pas adapté, de lui dire non, on ne mord pas. Quelquefois on peut avoir aussi des réactions de famille, je rebondis sur ce que vous venez de dire, on a dit l'enfant il m'a mordu donc je vais le remordre.
Oui, c'est des choses qu'on a déjà entendues,
voilà,
oui,
c'est... je vais le remordre, quoi. Comme ça il va bien comprendre que ça fait mal. Donc là moi j'explique en disant mais comment on peut être cohérent en disant non, on ne mord pas, mais là en tant que parent à un moment donné je m'autorise à faire quelque chose qui est interdit. Donc là, on n'est pas cohérent par rapport à l'enfant. Donc il s'agit bien de lui dire Non, ça ne se fait pas. Hein. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec toi, je ne te tape pas. Donc, tu n'as pas à taper. Mais par contre, voilà, on essaye de mettre des mots. Je comprends voilà, que tu n'es pas content parce que le copain il t'a pris ton jeu, mais tu peux aussi lui expliquer, etc. Et on essaye de, voilà, de mettre des mots sur ce qui se passe. Et encore une fois, comprendre et mettre des mots sur l'émotion de l'enfant, en disant « tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit d'être en colère, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'exprime ».
Et alors peut-être que ça va faire une transition sur le sujet d'après, mais est-ce qu'au bout d'un moment, l'enfant n'est pas aussi alimenté par un monde qui l'entoure et qui lui propose parfois comme modèle, comme exemple, l'agressivité? Là, j'ai en tête éventuellement des programmes télé qui sont souvent mis en cause dans le secteur éducatif, ou des modèles, des camarades également. Est-ce que ça joue, ça aussi, le modèle qui
lui
est proposé?
Oui, ça joue, parce que forcément, l'enfant, il est dans une période aussi d'imitation. Hein, il se construit parce qu'il voit autour de lui. Donc, et là, je rebondis par rapport à le deuxième thème des écrans. Mais effectivement, là, ce que je fais passer aussi à travers ces échanges, c'est que dans le développement de l'enfant, il y a des périodes où c'est difficile pour lui de faire la différence entre réalité et fiction. Et que quand on croit lui mettre devant les yeux un programme qui est soi-disant adapté, mais si on le laisse face seul, face à des émissions, encore une fois, il est fait face à des émotions qui lui viennent en pleine face, où les personnages vivent la colère, la peur, etc. Et lui, si on ne lui explique pas qu'est-ce que les personnages vivent, il ne va pas être en capacité de comprendre ce qui se passe et de pouvoir gérer tout ça. Donc là encore, notre rôle, il est bien d'accompagner les enfants face à ça et face aux écrans.
Oui, parce que ça castagne souvent dans les dessins animés. Hein.
Et oui, ça castagne souvent, ça dépend lesquels, mais oui. Et là aussi, moi je dis attention, on laisse souvent la télé en fond sonore. Et fond sonore, oui, mais il y a des images qui peuvent être très violentes. Le journal télévisé, pour un enfant, c'est d'une extrême violence. Hein, donc attention à ce qu'on montre aux enfants.
Et c'est des programmes justement où on dirait il n'y a pas le petit intitulé, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, que le CS1 impose, oui, à tous les programmes, moins de 10, moins de 12, enfin je ne sais plus exactement,
oui,
où ils en,
ça,
sont,
oui,
mais c'est ça, moins,
oui,
de 10, moins de 12,
oui,
et moins de 18.
C'est bien connu,
moins,
c'est le parent explicit lyrics. Non, pardon.
Voilà, ne faites pas attention aux interventions de Damien. Voilà. Alors, du coup, on en arrive au deuxième sujet des cafés parents que vous proposez, celui des enfants face aux écrans. Nous vivons au 21e siècle, les écrans font partie de notre quotidien. J'en ai même un dans ma voiture pour me donner la vitesse et puis un tas d'autres informations inutiles. Nous avons tous dans notre possession au moins 2 à 3 écrans chez nous, si ce n'est plus. Les enfants ont rapidement leur écran personnel à travers des consoles de jeux, à travers la téléphonie qu'on a de plus en plus tôt dans la vie. Y a-t-il des conséquences, ou y a-t-il des... Alors je ne veux pas forcément que ce soit bénéfique ou négatif, hein, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais quelles sont les conséquences en tout cas de ces écrans face à nos enfants très très tôt, et d'ailleurs dès la toute petite enfance?
Oui, alors ce qui est important, c'est que l'enfant tout petit, il a besoin de ce côté relationnel et sensoriel, de découvrir, il va comprendre ce qui le fait, ce qu'il est lui, qu'à partir justement de ce qui l'entoure. Et si on le prive de ça, si on le prive d'échanges, de moments sensoriels, de découvertes, il ne va pas être en capacité de justement de savoir qui il est, il ne va pas être en capacité aussi d'imaginer, hein, l'imagination est importante pour un enfant. Et chez les tout petits, avoir un écran avec un volume sonore important, avec un passage d'images qui se succèdent, c'est des stimulations qui sont trop violentes pour le tout petit. Déjà. Encore une fois, quand l'enfant n'a pas encore les mots pour exprimer ce qu'il veut et les émotions, là aussi, les écrans, c'est compliqué pour un enfant de voir des choses qui ne sont pas adaptées. Il va avoir besoin aussi de cette capacité de ce qu'on appelle la pensée narrative, c'est-à-dire que dans des histoires, que ça vous le retrouvez dans les livres pour enfants, d'avoir un début d'une histoire, un milieu et une fin. Là, quand on lui présente certains dessins animés, je passe notamment par exemple à Dragon Ball Z, Là où le personnage revient sur des choses qui sont passées.
Ce qu'on appelle les flashbacks, c'est
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Oui, oui. L'enfant, lui, qui n'a qu'à pas encore cette notion de temps, va être complètement perdu par rapport à ça.
Bah alors, est-ce que c'est grave qu'il soit perdu finalement en regardant un programme finalement, ce n'est qu'un programme, ou est-ce que c'est plus perturbant
non,
que ça?
Non, c'est perturbant parce que justement, lui, il va avoir besoin de mettre. De comprendre qu'il y a un début, un milieu, une fin. Ça va le rassurer aussi. Le tout petit a besoin d'avoir ce temps, cette réassurance et de comprendre ce qui se passe. Et là, dans la tête d'un tout petit, c'est incompréhensible. Donc il y a ça, hein, chez l'enfant. Et puis il a besoin d'être en relation, avec d'échanger. C'est pas le temps passé avec son enfant qui compte, mais c'est bien la qualité de temps. Et nous, en tant qu'adultes, on a affaire à être vigilants par rapport à ça aussi, parce qu'on voit bien hein, que le téléphone portable, les écrans font partie quelquefois des couverts, des assiettes à table, et que en tant qu'adultes, écouter son enfant, comment il a passé sa journée, on a les yeux rivés sur notre smartphone. Là aussi, il faut être vigilant, parce que l'enfant, il a besoin d'avoir vraiment une conversation avec nous et un échange, et ça, c'est important. Donc les écrans, il ne faut pas non plus les interdire, parce que ça fait partie de notre vie actuelle, mais il faut être vigilant sur l'utilisation des programmes adaptés et que l'adulte soit présent pour échanger avec l'enfant sur ce qu'il voit, hein, et les émotions encore véhiculées.
Alors, après tout ce que vous nous dites, comment se fait-il que les enfants soient autant attirés par les écrans? Il suffit de demander à des enfants, vous voulez faire quoi? Souvent, une des réponses qui va arriver, c'est la télé.
C'est addictif.
Qu'est-ce qui fait que c'est addictif, vu que c'est finalement...
Parce que c'est ludique, déjà, les images qui s'y passent. Quelquefois, forcément que c'est bien fait, des émissions pour enfants.
Tous les écrans fonctionnent, parce qu'il y a l'écran de la console qui fonctionne bien, l'écran du téléphone des parents qui fonctionne bien, l'écran... tout écran attire le regard.
Parce que ça attire, parce que c'est fait, voilà, c'est comme un jeu, la musique est faite aussi pour attirer, et on voit bien que plus l'enfant y est, et plus l'enfant, c'est addictif complètement, hein, plus l'enfant il va avoir besoin de ça. Et j'ai échangé justement avec un adolescent tout à l'heure, sa maman, et il disait bien que, il se rendait pas compte du temps qu'il passait, hein. Pour lui, une heure, c'était pas beaucoup, parce qu'il est plongé dans un univers, il a l'impression de s'évader à un moment donné, mais s'évader oui, mais à un moment donné il faut aussi se retrouver avec soi, et ça c'est important. Et je rebondis un peu là-dessus pour dire attention aussi aux surstimulations qu'on donne avec son enfant, hein, parce que donner trop d'activité, c'est l'enfant, il a besoin à un moment donné de pouvoir imaginer, s'ennuyer, ça c'est important. Et les écrans, plus on est habitué à ça, et plus on va rechercher ça, et on voit bien chez l'adulte quelquefois la difficulté de couper, les télés sont en fond sonore, on s'endort avec les écrans, et si on habitue très petit l'enfant à ça, il va être habitué à ça, il va rechercher ça.
C'est comme toute habitude de vie, ça rentre dedans. Du coup, chez les enfants, est-ce qu'il y a un temps un peu objectivé qui se dit là honnêtement un enfant n'est pas fait pour passer 5 heures par jour devant un écran, ça on est tous d'accord pour se le dire, mais alors finalement est-ce qu'il y a des... Vous le disiez, vous le soulignez, on ne peut pas non plus évacuer les écrans. Enfin, ce serait
après,
contre-productif également de les évacuer du
fonctionnement. Ça appartient à chaque famille.
Mais est-ce que pour le développement de l'enfant... Il y a eu des études autour de l'obésité qui ont été soulevées vis-à-vis du temps d'écran. Est-ce que vous avez un avis
J'ai présenté justement dans le Café des parents tout à l'heure par rapport aux écrans une étude allemande qui a été faite où on voit, où on demande à des enfants d'âge 4-5 ans de dessiner le bonhomme. Et on voit pour des enfants qui passent moins d'une heure par jour, le bonhomme est très bien représenté. Il y a des détails, le corps est relié, la tête reliée au tronc, etc. Et on demande la même chose à des enfants du même âge, mais qui ont passé de plus de 3 heures de télé par jour. Et là, on voit que le bonhomme est déjà ce qu'on appelle le bonhomme têtard. C'est juste les bras reliés à la tête, etc. Et ça, le dessin, il est très pauvre de la compréhension de ce que l'enfant a de son corps. Et donc là, il y a bien un impact sur le développement, il y a bien un impact sur comment l'enfant il comprend le monde.
À travers ce que vous dites, moi je vois pas que l'impact du dessin, je vois l'impact de l'imaginaire, de la créativité qui est essentielle dans le fonctionnement.
C'est ça.
Et on peut se dire que quand on a pris des habitudes, comme vous le soulignez il y a quelques secondes, quand on a pris des habitudes, a priori on va dans le même sens pour la suite. Du coup, si on se ralentit en permanence la créativité, la réflexion, l'imaginaire, voilà, je veux pas faire les études à la place de ceux qui les font, mais ça peut avoir des conséquences, j'imagine, quand même, en termes de être bien dans le monde qui nous entoure, tout simplement.
Oui. C'est ça. Et puis c'est important de pouvoir se retrouver avec soi, de pas être tout le temps dans la stimulation et de pouvoir, de tout simplement se retrouver avec soi, de pouvoir, c'est ce que Winnicott a appelé l'espace transitionnel, c'était cet espace qui nous permet d'un moment donné de plus être dans le réel et dans le soi, c'est d'imaginer, de créer, et ça c'est important.
Du coup, dans l'idée, c'est quand j'ai regardé trop de télé, le but du jeu, c'est pas de me mettre sur l'ordinateur après, parce que ça faisait trop longtemps que j'ai regardé la télé, et puis de passer à la console après.
Voilà, plutôt d'aller jouer dehors, aller dans le jardin, faire le potager, ça c'est super intéressant pour les enfants.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ah, sinon, une dernière question. Si on veut aller un petit peu plus loin dans ces réflexions, là, nous venons d'aborder sur un bon quart d'heure, d'ailleurs, on a un peu débordé, si on veut aller un peu plus loin que les échanges que nous venons d'avoir autour des questions d'agressivité ou des enfants face aux écrans, est-ce qu'il y a des endroits que vous nous conseillez, des endroits où on peut échanger sur le sujet, des centres de ressources sur le sujet, où est-ce qu'on peut aller un peu plus loin?
Alors, déjà, au niveau des livres, hein, pour les tout petits, moi, je conseille un livre qui est très bien pour les enfants, pour les parents notamment, hein, parce qu'ils sont un peu perdus sur comment on peut dire aux enfants sur certains sujets. Donc il y a le livre de Marie-Noëlle Clément qui s'appelle Comment te dire, qui est très bien fait sur pas mal de sujets qui se rapportent à la petite enfance. Et puis,
c'est une série ou c'est un seul ouvrage?
C'est un seul ouvrage.
À destination des parents,
voilà. Vous avez aussi sur le sujet des écrans un Serge Tisseron qui a fait notamment la règle 3, 6, 9, 12 qui a établi aussi, a fait toutes des études sur l'intérêt et l'impact des écrans chez les tout-petits. Donc là aussi, je vous invite à aller retrouver ce qui est son travail. Et puis, je vous invite, si vous avez envie de me faire partager aussi entre famille et parents sur les questions de la parentalité, j'ai un site www.parenthèse.com qui, je permets aussi aux parents de pouvoir échanger sur ces questions autour de la petite enfance.
Eh bien, merci à vous,
merci à vous.
Julie U, d'être venue à nos micros. Je rappelle, vous êtes directrice du multi-accueil du CIVU Libellule à Saint-Sébastien-de-Morsan. Vous êtes également éducatrice jeunes enfants et vous proposez notamment des formations sur l'accompagnement à la parentalité. Merci à vous d'être passée par nos micros. Et c'est ainsi que cette émission qui aura débordé du coup, forcément, Julie U nous parle de sujets assez importants sur lesquels nous avons tous des questions, alors nous ne pouvions pas gentiment dire merci quand c'était l'heure. Nous aurons donc débordé de 5 petites minutes, mais c'est pas bien grave, hein.
Absolument,
Damien.
Pas, c'était non. Combien intéressant.
Bah voilà, c'est ça, donc si en plus vous validez, moi je trouve ça génial. Donc c'est ainsi que va se terminer pour nous cette émission autour de la petite enfance et de la journée de la petite enfance qui se déroule encore jusqu'à 18h à la Jeanne d'Arc de Navarre, à l'association Jeanne d'Arc à d'Evreux, à Navarre. Hein, vous pouvez encore nous rejoindre.
On peut s'amuser, se divertir, apprendre des choses, se renseigner, s'informer. Chouette, quoi.
Bah complètement. J'étais même en train de me dire, on a même mis Julie U en retard pour son café des parents qui devait démarrer il y a 5 minutes sur l'agressivité du jeune enfant. Elle vient tout juste d'y aller, mais nous, on a eu en primeur un petit peu les informations qui allaient être échangées à cette occasion. C'est la fin de cette émission, j'ai déjà dit, deuxième fois. Hein.
On rappelle les programmes du soir peut-être sur Antenne de Principe Actif.
Je vous en prie.
Avec à 21h le retour d'Alex Montel avec Montel le son, bien sûr, 21h-22h et puis 22h-23h avec Dance Floor Soul Connection. Une heure de mix autour du groove, du disco et de la funk et de la soul music. Demain, journée assez dense, mais je suis obligé de le préciser, hein, avec le canard siffleur mexicain, clap, vaguement dimanche, du reggae avec serveur jamaïcain et du sauvage sunglet jumping.
Allez, du Sova Sunday Jingle.
Merci beaucoup.
Et puis on se retrouve lundi matin pour le Pirates Damien. Merci Monsieur JC, c'était fort intéressant.
Eh bien je vous en prie, vous étiez fort intéressant également, Monsieur Damien.
Au revoir.
Restez à l'écoute, tout va bien.
Ouais, il se passe plein de choses encore sur Antenne de Principe Actif. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye.
C'était impressionnant quand même.